les murs finissent par craquer.
Les battants veulent me pousser dans l'impasse.
Les murs finissent par craquer.
Les bâtards veulent me pousser dans l'impasse.
L'étoile rouge devant ma face, c'est un diplôme d'honneur pour elle. Rien pour moi, mon honneur s'efface peu à peu. Chez nous les cœurs se glacent très tôt, la peur se tasse. Pour rien les frères se fracassent. Les patates volent, les mauvais coups s'enchaînent comme cette chienne de vie habituée au vacarme. Pour éviter les larmes dans les poches, les gosses glissent des lames. Pas facile de vivre avec des drames. Micro en main, j'envoie ma cam. Nos soucis sur ton phonogramme régénère la flamme. Des vrais poètes de rue, ne sois pas détendu. L'atmosphère est tendue, ou sur les cordes à linge. Ton corps va jouer le pendu. J'ai conçu ce texte face au but. Mes rimes claquent les baffes comme les staffs d'Ahnouch qui jouent les baraques. Les pieds dans les flaques de pisse, mon quartier craque. Dans les blocs, les appareils nous braquent. Flash sur les glocks, l'histoire finit sur des menottes. C'est donc ça nos vies, maudit. Mon peuple survit, la vie des êtres chers. Lucifer les met au bas prix. J'écris, je prie pour fuir les soucis. Comme les petits frères fuient devant des képis. L'esprit embrasé s'éteint seulement avec du liquide. Freeman, je suis loin d'être passif, je vis. Alors quoi, c'est donc ça nos vies. Putain, dire que l'affection était une famille.
Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Radio U en direct, il est 19h un peu passé. Méta Radio qui revient sur les ondes de Radio U après quelques semaines d'absence. Voilà, on revient avec une émission, on va dire, dont le contenu va essayer est politique, clairement politique, essayer de réfléchir à ce monde de merde tel qu'il est, pour le dire simple. Et du coup, autour des micros, il y a des invités dans le studio de Radio U. Il y a Bastien et Lucie. Salut. Qui sont de Révolution Permanente. Voilà, merci d'être là.
Merci à toi pour l'invitation. Et...
Merci.
Est-ce que vous entendez bien ? Ça va ?
Oui, très bien.
Oui.
Super. Je vais déjà dans un premier temps vous laisser vous présenter et présenter Révolution Permanente. Révolution Permanente, pour moi, ça fait référence à Trotsky. Ça fait référence du coup à l'histoire révolutionnaire du mouvement social ouvrier du XXe, avec comme horizon le communisme et le marxisme comme on va dire comme matrice de pensée. Est-ce que je me trompe ?
Non. Donc Révolution Permanente. Bon voilà, évidemment c'est le. Enfin évidemment. Pardon. C'est le concept de Trotsky là de Révolution Permanente. Bon, il avait écrit un livre dessus. Et donc oui, on est une organisation marxiste révolutionnaire en général. Hein. Moi, j'aime autant présenter comme ça d'ailleurs que juste uniquement trotskiste parce qu'on mobilise beaucoup d'auteurs, dont aussi par exemple Gramsci, dans une certaine mesure Rosa Luxembourg, évidemment Marx, mais aussi
Lénine,
pour un type de militantisme qu'on défend. Et donc nous, on était un courant du NPA qui s'appelait le courant communiste révolutionnaire. Et on s'est fait virer du NPA en gros en 2021, c'est ça. Et notre congrès de fondation, c'était 2022 en tant que parti, du coup, après. Et on a eu notre premier congrès en fin janvier 2025, début février. Et donc voilà, on est...
Une organisation relativement jeune, récente.
Très, très jeune, dans tous les sens du terme.
Et qu'est-ce qui a poussé à vouloir... créer un parti de ce type ?
Ben, en fait, on s'est fait virer sur une question politique, je pense. C'est que le courant communiste révolutionnaire dans le NPA voulait pas être dans une espèce de parti large, on va dire astratégique, mais plutôt être un parti d'avant-garde, c'est-à-dire avec des gens beaucoup plus formés. C'est pas un truc, comment dire, pour se la péter avant-garde, c'est juste des gens qui sont illustrés par exemple à la lutte de classe, dans des luttes, et qui sont des militants professionnels, pas au sens de être payé, être permanent forcément, mais au sens de y consacrer beaucoup de temps avec assiduité, etc. Tandis que le NPA, en fait, s'est fondé sur un grand fourre-tout idéologique, donc il y avait un peu tout le monde, il y avait des libertaires, il y avait machin, et en revendiquant un flou stratégique pour déjà pour. Amasser large et aussi en disant on n'est plus dans une époque révolutionnaire, de possibilités révolutionnaires, donc on change de stratégie. Et donc du coup avec une perte de la classe ouvrière comme sujet politique et un côté très mouvementiste et pour finir, et c'est ça qui a sûrement précipité la rupture, la volonté d'alliance électorale par en haut avec les réformistes, ou nous qu'on appelle néo-réformistes de LFI, plutôt que d'être une organisation vraiment indépendante à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'on refuse les fronts unis, avec même des organisations comme LFI, notamment contre la répression, contre l'extrême droite, etc. Mais nous, on ne voulait pas aller dans cette stratégie. Et donc, on avait présenté Anas Kazib pour pouvoir être candidat à la présidentielle de 2022. Donc, présenté dans le parti et tout. Donc, ça a créé des remues et tout. Et donc, finalement, les fractions, ont fini par imploser. Et même dernièrement, quand... à leur dernier congrès, le NPA, en fait, s'est divisé encore en deux avec la création après du NPA révolutionnaire, et voilà, qui était plus d'ailleurs sur notre ligne d'indépendance avec LFI. Et,
okay.
Et donc voilà. Donc le NPA qui reste, c'est le NPA l'anticapitaliste, enfin le NPA canal historique, on va dire. Et sinon, il y a le NPA révolutionnaire et il y a nous depuis 2022, notre congrès de fondation.
Et Lucie, tu veux rajouter quelque chose à ce sujet ?
Non, je pense que Bastien était assez clair.
Alors, ouais, juste pour vous titiller, vous assumez la référence à l'histoire du communisme du XXe siècle en assumant l'héritage de Trotsky, par exemple ? Et de Lénine ?
Oui, dans le sens, déjà, bon, moi, je pense que Trotsky et Lénine, déjà, sont des grands penseurs politiques. Donc là, on reste sur le texte purement, voilà. Après, je pense que tu fais référence au niveau historique, plutôt, et à leur action concrète.
C'est des grands penseurs politiques, mais c'est aussi des hommes d'action.
Des hommes d'action.
Des hommes d'organisation.
Des hommes, oui. Et donc, forcément, dans la Révolution russe, oui, il y a sûrement des épisodes qui sont plus sanglants que les autres, et notamment, en fait, donc de 18 à 21, où la Russie bolchevique, enfin la Russie soviétique, est assiégée par plus d'une quinzaine de pays, il me semble, c'est de étrangers. Et donc, où il y a la guerre civile interne et tout ça, et voilà quoi. Donc,
Mais après, plus largement, en termes de vision que peut avoir une organisation révolutionnaire, puisque c'est quand même peut-être ça le but fondamental, de s'organiser en vue de créer des conditions pour faire un mouvement révolutionnaire qui va renverser d'une manière ou d'une autre l'ordre établi. Comment déjà on le définit, cet ordre établi, sous quel terme, capitalisme, avec un aspect colonial, impérial, etc. En vue de cette organisation-là, la référence quand même à l'expérience communiste telle qu'elle a existé est lourde. Enfin, il faut l'assumer, surtout dans le contexte actuel où, en fait, dès qu'on utilise le mot communisme, socialisme, on est les diables, quoi, presque.
Ouais, nous, on se revendique clairement comme communistes. Et je sais qu'on, par exemple, on avait un topo de formation qui s'appelait communisme versus stalinisme. Donc, on fait l'analyse et que Trotsky faisait très tôt que l'État ouvrier, en gros, a dégénéré. Donc, il parlait d'État bureaucratique dégénéré. C'est-à-dire la création de la bureaucratie stalinienne et qu'en fait, en Russie, les forces productives n'étaient pas assez développées, même au niveau culturel, c'est-à-dire culturel au sens très large, hein, donc impliquant les sciences, les technologies, etc. Et que du coup, il aurait fallu une révolution en Allemagne pour pouvoir profiter finalement des forces productives allemandes, de leur technologie, etc., leur niveau de développement en fait, du capitalisme, tout simplement, pour pouvoir assurer la production, plutôt que se retrouver avec un État soviétique assiégé qui doit se partager la pénurie. Et en fait, l'analyse de Trotsky, c'est que la bureaucratie, elle se crée, stalinienne, sur cette base matérielle-là de se partager la pénurie. Et finalement, ça amène une espèce de caste d'État qui, au bout d'un moment, doit tout à Staline parce qu'elle est, c'est des jeunes qui ont été mis en place par cette bureaucratie stalinienne. Et donc, ils en font partie, etc. Et l'État s'hypertrophie, gonfle. Et on sait que Marx voulait le dépérissement de l'appareil d'État après, disons... le changement de propriété des capitalistes, c'est-à-dire que, en gros, le capitalisme développe les forces productives, développe sur une large échelle l'industrie, l'économie, et en changement de propriété, on répartit autrement ce qu'on fait de la production, comment on bosse, etc. quoi. Et donc, c'est tout l'inverse qui s'est passé en URSS. Trotsky reconnaît que, quand même, il y a eu un changement de propriété, c'est-à-dire que, en gros, il y a eu finalement une étatisation de l'économie. Mais que, bon, déjà, on peut analyser ça comme ce qu'on appelait le stakhanovisme. Enfin, je veux dire qu'il y avait quand même aussi, ça n'a pas empêché une exploitation, enfin, je veux dire, un surtravail très fort. Et que du coup.
Si je peux me permettre sur ce point, ça n'a pas empêché, on va dire, la Russie soviétique. L'expérience révolutionnaire de la Russie soviétique qui se met en place à partir d'octobre 17, déjà sous Trotsky et Lénine, qui étaient des leaders hyper importants, d'être dans l'imaginaire productiviste,
tout à fait,
d'être dans l'imaginaire techniciste du capitalisme. Hein. Ils n'ont pas rompu avec ça.
Les pensées de la décroissance, elles arrivent de mémoire dans les années 20-30, mais par des penseurs assez minoritaires. Et que la plupart des penseurs de l'époque, et pour arriver au socialisme, c'était développons les forces productives parce qu'il faut avoir une base productive suffisante pour, comme je l'ai dit, pas se partager la pénurie et être en gros, être en retard économique, culturel et tout ça. Et en vrai, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde qui pense ces choses-là Quand je dis décroissance, c'est
ils sont très minoritaires.
Je pense à Charbonnier, Ellul peut-être, à peu près vers ces
Ellul, ouais, ouais,
à
ouais,
peu
ouais.
près vers, enfin plutôt années 30, je crois. Mais du coup, oui, moi c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aussi à l'écologie et notamment aux recherches qu'a pu en faire Marx, c'est-à-dire de comment pour moi l'écologie devrait presque être une aubaine pour penser un socialisme, un communisme écologique, c'est-à-dire que avec le désastre en cours, je ne vois pas d'autre solution que un changement systémique qui serait l'expropriation de la bourgeoisie, pas pour produire à balle, mais justement pour pouvoir contrôler la production en fonction des besoins, arrêter de produire plein de merde inutile, une planification écologique rationalisée. Avec des unités de mesure qui soient en nature plutôt que en argent ou que la valeur d'échange donc avec une sortie du marché, avec un développement des services publics, etc. quoi. Et ça, évidemment, aujourd'hui, si on revoit l'histoire notamment de l'URSS, c'est un fiasco écologique, hein. C'est vraiment, c'est un désastre écologique, c'est clair. Hein. Très tard, il y a eu Tchernobyl. Avant, il y avait eu aussi l'assèchement de la mer de
la mer d'Aral.
La mer d'Aral, etc. Enfin, bon, voilà. De toute façon, ils ont
extractivisme. Avec ça, ils le partagent avec le capitalisme. Ils partagent ce désastre écologique avec le capitalisme, qui n'a pas mieux fait, voire pire.
Ben, aujourd'hui, justement, si on nous demandait, est-ce que vous êtes communiste et donc du coup, ça nécessite une explication de texte par rapport, notamment. À l'autoritarisme du stalinisme on connaît les camps du goulag par rapport à j'en ai parlé cet hyper-étatisme et cette hypertrophie de l'armée aussi, enfin hein, c'est un état militarisé. Et je pensais aussi à, sur l'écologie, évidemment, tu ne peux pas penser un communisme au XXIe siècle en éludant cette question-là, elle doit même être centrale.
Du problème, peut-être qu'on s'arrête là pour la présentation de Révolution permanente. De toute façon, après, on renvoie à toutes les productions qui sont faites quand même par vous, qui sont assez multiples. Et peut-être se concentrer là sur moi, je vous ai invité, quoi. J'ai profité de t'avoir croisé à un événement pour t'inviter Révolution permanente à venir à la radio. Déjà, d'une part, c'est que en ces temps de on va dire, de privatisation outrancière des médias qui appartiennent à quelques milliardaires, à l'oligarchie qui domine, eh ben, en fait, à essayer d'avoir un autre discours, d'autres analyses, ça devient une urgence démocratique. Hein. Voilà, déjà d'une, pour entendre autre chose, pour avoir le temps de se poser, déjà. Et deuxièmement, c'était parce que on partage beaucoup d'idées et de valeurs ensemble, et du coup, c'est essayer de réfléchir ensemble à ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, à des questions liées, par exemple, à qu'est-ce que ça devient à notre démocratie, là, la politique aujourd'hui, avec une espèce de retour de l'autorité le plus brutal, un appel à réarmement dans toutes ses formes, sans consultation, sans réflexion, voilà, avec une montée de l'extrême droite qui maintenant, depuis des décennies, a presque à gagner au niveau des idées. Voilà, un mec comme Retailleau, ministre de l'Intérieur, on peut dire qu'il est d'extrême droite, dans ses discours, c'est clair. Bon, voilà, c'est pour parler de ce qui fait problème aujourd'hui. On va lancer un petit son qui va introduire cette question de la guerre, par exemple. Que faire, là, face à ce discours guerrier, massif, en France comme en Europe, comme aux États-Unis, comme un peu partout. Qu'est-ce que ça signifie pour nous stimuler dans notre réflexion? Je vais passer un petit extrait d'une conférence d'Alain Badiou. Alain Badiou, qui est un penseur communiste, qui assume l'héritage du communisme, et qui est très critique aussi, hein. Mais en tout cas, qui essaye, lui, il a un point de vue très clair. L'échec du communisme est une des raisons pour comprendre l'effondrement moral, politique, économique, social dans lequel on se trouve. Il y a eu cet échec historique, pour maintes raisons, on ne va pas l'évoquer là. Bref, il a fait une conférence en novembre 2015, juste après ce qui s'est passé à Paris, à Bataclan. Et on écoute ça. Et voilà, ça va nous stimuler pour la conversation parce que ça parle de quelque chose très actuel sur la guerre.
Je pense que la fonction fondamentale d'un État comme l'État en France, c'est de discipliner la classe moyenne. Et ça, c'est spectaculairement l'œuvre de la gauche. La gauche est bonne pour discipliner la classe moyenne. Et c'est pour ça que là, elle est excellemment dans sa position. Je vous rappellerai qu'à l'époque de ma jeunesse, dans la guerre d'Algérie, hein, c'était encore une autre affaire, c'était aussi la gauche. Hein, Guy Mollet, Lacoste, tout ça. Donc il semble que pour discipliner la classe moyenne, en lui disant la guerre, et ce qui n'est pas son habitude beaucoup à la classe moyenne occidentale, la guerre, hein. On a fait une statistique là-dessus. Combien de gens sont prêts à mourir pour la patrie aujourd'hui en France? 3%.
Hop là. Donc voilà, on a entendu quelques extraits de la parole d'Alain Badiou. Ah, est-ce que ça vous parle?
Oui, absolument, absolument là. Sa référence vraiment à la guerre d'Algérie, à Guy Mollet, donc, qui faisait partie de la SFIO, qui quand même est l'ancêtre du Parti Socialiste, qui vraiment a commis des choses vraiment terribles, qui a voté des pouvoirs d'exception en Algérie, avec Mitterrand qui était ministre de la Justice, qui a du sang sur les mains déjà à l'époque, puisqu'il avait la possibilité de faire gracier des condamnés à mort, quoi, du FLN, et il ne l'a quasiment pas fait. Enfin bon, voilà, donc ça m'évoque ça, et ça m'évoque vraiment la fin de la 4e République. Et donc l'arrivée de Gaulle et de la 5e République, et donc l'arrivée d'un général qui construit une constitution qui vraiment est au service du militaire, de l'armée, de la puissance d'État française. C'est ça que ça m'évoque. Et effectivement, il faut créer un consensus autour de ce fait guerrier, de cette puissance. Et donc, bon, c'est vrai que bon, De Gaulle, à l'époque, se servait évidemment de ses faits d'armes, de la résistance, et donc était appelé... Enfin, là, je tiens à parler de la 5e parce que nous en parlerons. En fait, je pense qu'il faut qu'on dise que nous allons faire avec Révolution Permanente une assemblée ouverte jeudi prochain, donc jeudi 3 avril, qui sera au PL Guérin à 20h30. Et donc, nous parlerons de cette course à la militarisation à cette marche à la guerre, à cette propagande d'État forcenée. Et c'est vrai que là, je te rejoins totalement sur l'idée que maintenant, j'imagine, parce que je n'écoute pas trop la radio et la télévision, mais dès qu'on allume un petit peu, c'est magnifique. On va s'armer, enfin, c'est extraordinaire, et on va se donner les moyens d'être fort et puissant. Enfin bon, et c'est absolument démentiel. Donc effectivement, il est très important d'avoir un contre-discours vraiment très fort là-dessus. Et donc, pour revenir sur Badiou, sur ce qu'il dit, effectivement, enfin, moi, ça me replace sur cette idée de consentir à, sur ce consentement, sur donc du coup le fait de que les, comment dire, d'écraser les potentialités, parce que là, de la classe ouvrière notamment, donc il parle de classe moyenne, enfin on peut parler de classe ouvrière, enfin de ceux qui sont gouvernés, parce que finalement, face à un ennemi créé, donc là, bon, les Russes, mais ça peut être, voilà, à l'époque, donc ça peut être, voilà, les musulmans, enfin c'est toujours les musulmans, voilà, les musulmans, enfin, on crée des ennemis, et donc bon, évidemment, on fait bloc. Enfin, alors que non, effectivement, c'est la bourgeoisie qui est notre ennemi. Peu importe le pays où on est, c'est la bourgeoisie. Et donc voilà. Donc oui, je tenais à parler de cette cinquième qui est vraiment née dans le sang des Algériens. Mais il faut pas oublier le sang d'autres. Il y avait la guerre au Cameroun aussi. Enfin, il y avait des tas de guerres. Enfin, Madagascar aussi. Il y a des tas de guerres dont on parle très peu, mais qui a donné lieu à dizaines de milliers de morts, voire des centaines parfois. Et donc, c'est comme ça que naît la cinquième, en fait. C'est pour conserver la puissance de l'État français qui était en cours de décolonisation. Parce que malgré tous les moyens qu'elle mettait pour mater les peuples qui se révoltaient pour devenir indépendants, bon, ben, force est de constater que même ça coinçait en France. Parce que face à la torture, bon, il y avait quand même quelques voix qui s'élevaient en disant « ça se fait pas ». Puis même, ça coûtait de l'argent, finalement. Tout l'argent allait dans la militarisation. Et puis bon, il y a eu cette fameuse défaite de Dien Bien Phu en 1954 qui fait qu'on a dû cesser cette Indochine française, enfin, voilà, laisser ce qui a été, je pense, un gros choc pour l'État à l'époque, enfin, pour les populations. Et voilà, donc voilà, c'est comme ça que naît la cinquième, avec un général, et la cinquième, donc, avec une constitution vraiment hyper autoritaire, qui a été conçu, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en référence à la constitution de Weimar, allemande, qui est née après la Première Guerre mondiale, qui était très autoritaire aussi. Et donc, bon, voilà, je ne vais pas détailler tous les traits autoritaires, mais bon, il y a le fameux article 16 qui peut donner les pleins pouvoirs au président. Enfin, il y a des tas de... Le président qui est chef des armées, donc qui a vraiment des pouvoirs très, très forts, et surtout, qui a les codes de l'arme nucléaire. Enfin, c'est là, en fait, où on rentre vraiment dans cette période où c'est la dissuasion nucléaire qui devient vraiment
la matrice.
L'arc de voûte, vraiment, de notre système militaire, et je dirais même, finalement, de notre État, au final, quelque part. C'est un peu ça, la France. C'est l'arme nucléaire. C'est le fait qu'on rentre dans à l'époque, il n'y avait que quatre pays, donc il y avait l'URSS, les États-Unis et l'Angleterre, et donc on rentre en janvier 1960, avec le premier essai nucléaire en Algérie, qui était encore notre colonie. On rentre dans ce club très très fermé, donc des puissances nucléaires. Voilà. Et donc, enfin, pour moi, si c'est la puissance de la France, en fait, c'est la possibilité de tuer des millions de personnes. Voilà. Et voilà, c'est à ça que tient notre puissance, ce qui en dit long.
Merci hein, pour on prend voilà. Le temps hein, on a le temps de discuter, on a encore 40 minutes. Oui. Donc c'est bien de prendre le temps et d'aller précisément dans les sujets, et c'est un sujet clé, la naissance de la 5e République, parce que après on entend nos dirigeants, alors là la droite comme la gauche hein, depuis des années appuyer sur nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates, blablabla blablabla bla, bla, bla. Mais quand on revient dans l'histoire et précise des choses, comme tu l'as dit, bah la 5e République est née d'un coup d'État à la faveur de ce qui se passait en Algérie. On fait appel au sauveur et on crée la constitution Debré, qui était loin d'être un amoureux de la démocratie. Petite parenthèse, la constitution de la 5e République française, après, elle a été rapportée dans beaucoup d'ex-colonies. Ils ont plaqué en Cameroun et ailleurs pour créer des faux États indépendants, hein, parce qu'on est dans cette période de soi-disant décolonisation, mais bon, on peut largement revenir sur ce mythe de la décolonisation. Et du coup, les constitutions des États africains ont été plaquées pour garder une mainmise avec des hommes clés qu'on avait placés. Je ferme la parenthèse. Tu veux rajouter quelque chose sur cette problématique de l'appel à la guerre, qui est une vieille ruse, hein ?
Oui, voilà, bon, y a plein de pays en Europe qui réarment. L'Allemagne, qui vient de supprimer, enfin de modifier le frein à l'endettement dans sa constitution, et qui pourrait investir pour, on va dire, 900 à 1000 milliards, mais dont la moitié pour les infrastructures, mais une grosse partie, en fait, pour pouvoir s'endetter et produire des armes. La Pologne, qui a 5% de son PIB pour la production d'armement, les États baltes, c'est plutôt sur ce genre de niveau. Bon, la Russie, il faut savoir que c'est 10% de son PIB pour la défense. Elle est en économie de guerre, donc ça veut dire que une partie de sa base industrielle est reconvertie pour la production d'armement. Donc voilà. Et Lucie a parlé du nucléaire français. Et l'autre fois, il y avait Macron qui parlait à la télé et tout ça. Et à l'entendre, on avait l'impression que les chars russes allaient arriver sur les Champs-Élysées. Mais donc voilà, donc c'est pour faire flipper tout le monde. Il faut se calmer. La France fait partie de l'OTAN. Donc il y a l'idée que quand tu attaques un pays de l'OTAN, les autres pays sont censés te défendre. Et que donc du coup, dans l'OTAN, il y a plein de pays qui ont enfin, il y a plusieurs pays qui ont l'arme atomique, dont la France. Et que la Russie ne va pas s'attaquer à un pays qui a l'arme atomique, quoi. Comme la France, enfin voilà quoi. Donc il y a quand même des divergences d'intérêts au sein de l'Union européenne. C'est pas pareil. Par exemple, les Allemands pourraient avoir un intérêt à se re-rapprocher de nouveau de la Russie, enfin en tout cas de continuer comme avant, du temps où ils avaient en fait beaucoup d'importations de gaz russe, pas cher, et qui boostaient complètement leur économie tournée vers l'exportation de machines-outils, etc., à l'international. Donc vraiment une économie monde pour l'Allemagne, enfin une économie qui a une portée mondiale, quoi. Sauf que l'Allemagne, là, est en récession depuis 2 ans. Donc voilà, les pays baltes, évidemment, ils n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts et tout ça. Et donc, si on revient sur le contexte de plus long terme, disons que la suite historique, c'est après la chute du RSS, en fait, l'OTAN, les Américains, tout ça, avaient promis à Gorbatchev qu'il ne s'étendrait pas à l'Est. Au début des années 2000, Poutine a essayé d'intégrer le bloc occidental, notamment, pourquoi pas, l'Union européenne, mais aussi l'OTAN. Il faut savoir que les Américains, notamment par Brzezinski, qui est un géopolitologue américain, qui a été aussi aux affaires sous Carter, avaient théorisé ça, qu'il ne fallait pas qu'il y ait une continuité eurasiatique entre l'Europe et donc la Russie, parce que ça créerait une trop grosse puissance face aux États-Unis. Et donc, il avait déjà défini à l'époque l'Ukraine comme état pivot. Et clé, donc après la chute du mur, pour rompre cette unité eurasiatique. La suite historique ne l'a pas démontré, et on a vu que l'Ukraine a été un enjeu central dans ce qu'on a appelé les révolutions de couleur, où en gros c'était des anciens pays du bloc soviétique après la chute du mur. Dans les années 2000 notamment, qui étaient un peu amenés à choisir entre rejoindre l'Union européenne, l'OTAN, ou alors être plutôt dans l'orbite russe, notamment économique. Et donc du coup, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a eu des révolutions de couleurs, il y avait déjà eu l'Ukraine, après il y a eu... Quand les Russes ont vu qu'ils ne pouvaient pas intégrer le bloc occidental, finalement, ça a précipité aussi les choses. Donc, il y a eu aussi la guerre en Géorgie, etc., etc. Le Maïdan, c'est 2014, toujours en Ukraine. Donc, toujours sur ce même genre d'enjeu. Et donc, avec l'invasion de la Crimée, le séparatisme des régions du Donbass pro-russe, voilà, et tout ça. Donc, c'est tout ce contexte-là. Donc les Russes qui préviennent que il ne faut pas que l'OTAN aille endiguer en fait la Russie aux portes. C'est un peu comme si par exemple les Russes se mettaient à Cuba. On sait que ça avait failli dégénérer ou au Mexique. Donc on sait que quand ils s'étaient mis à Cuba avec la fameuse histoire des missiles à Cuba vers 60, ça avait failli dégénérer en guerre mondiale et que enfin voilà. Tout ça est dit, c'est pas pour excuser les Russes, Nous, à Révolution permanente, par exemple, on qualifie de réactionnaire, évidemment...
le régime de Poutine.
Et son invasion de l'Ukraine en 2022, enfin voilà, et son régime, etc. Mais par contre, on qualifie aussi de réactionnaire l'autre camp. C'est-à-dire que Trump a au moins le mérite de mettre à nu des choses, c'est-à-dire dans son deal qu'il voulait faire là, sur les ressources ukrainiennes pour la paix et tout ça, où il voulait rafler 50% de l'exploitation en fait, des ressources rares, des métaux rares, de tout ce qui est les minerais, etc., même de terres rares. Voilà quoi, il voulait vraiment rançonner l'Ukraine. Et les autres pays impérialistes, comme la France, ne sont pas en reste. Hein. La France est en négociation aussi pour ces mêmes minerais avec l'Ukraine, etc. quoi, hein. Et quand ils ont prêté de l'argent à l'Ukraine, les Européens sont des créanciers de l'Ukraine, il faut que ça soit remboursé. Voilà, donc voilà, donc c'est toute cette situation où... qui profite à des gens comme Macron pour gagner en cote de popularité, détourner finalement...
Pour faire diversion aussi sur
les sujets sociaux. Et finalement, tout ça aussi, ça arrive parce qu'il y a une crise du capitalisme. Une crise du capitalisme, en fait, l'économie mondiale est en net ralentissement. J'ai parlé de l'Europe, enfin de l'Allemagne, mais de l'Europe qui est clairement un peu la région, on va dire, un peu malade économiquement des pays avancés du capitalisme. Même la Chine, sa croissance ralentit, etc. Et donc ça, tout ça, ça exacerbe les tensions pour les marchés, pour les matières rares, pour les ressources, pour les énergies. Et donc voilà. Et souvent, ça finit par la canonnière, comme déjà Lénine en parlait dans son bouquin que je vous conseille d'ailleurs. Hein, c'est pas, y a pas besoin d'être léniniste ou je sais pas quoi pour lire ça, mais c'est une analyse très intéressante de l'impérialisme suprême du capitalisme et qui peut encore nous servir aujourd'hui. Et un point important que j'ai oublié et qui est fondamental et dans ce qu'on va dire à notre réunion publique jeudi, c'est que partout, cette course à l'armement se fait au détriment des autres budgets, santé, éducation. Voilà. Voilà, en France, par exemple, là, c'est l'austérité à coût de 50 milliards, enfin un truc comme ça. On s'en fout des chiffres parce que ce qu'il faut retenir finalement, c'est que tous les budgets des ministères vont baisser sauf police, justice, armée. Et voilà.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi je fais une petite citation là, d'un article qui est du Monde Diplo qui vient de sortir là, d'avril. Le piège du grand réarmement, c'est ça le titre. Et il y a cette phrase qui va tout à fait dans le sens de ce que tu viens de dire. Et je pense qu'il résume l'enjeu. On ne revendique pas quand l'ennemi campe à nos portes. Il y a cette politique de la peur là. Ah bah oui.
Et l'appel à l'union sacrée aussi. Ça, c'est très important parce que le premier discours de Bayrou, quand il arrive, en gros, c'est de dire il y a le danger, enfin, il y a la Chine, il y a les Russes, il y a Trump, il y a toutes ces grandes puissances. Et nous, en gros, il faut qu'on serre les coudes. On est tous dans le même bateau. Et donc, tout ça, et j'ai oublié de le dire, mais c'est très important, ça amène des appels à l'union nationale, en gros, entre la classe ouvrière dans chaque pays, en gros, avec sa propre bourgeoisie. Et c'est une situation, quand je parlais de la situation pré-14, avant le premier conflit mondial, qui a des similitudes, parce que, en gros, à l'époque où le mouvement ouvrier était très développé avec l'internationale, la seconde internationale, du coup, ça finit par la guerre quand même. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Ok, mais en août 14, le plus grand parti ouvrier, la social-démocratie allemande, vote les crédits de guerre, avec juste plus tard quelques voix discordantes comme Karl Liebknecht ou Rosa Luxembourg. Mais en gros, les prolétaires allemands sont allés foutre sur la gueule des prolétaires français, avec évidemment les capitaux des bourgeoisies de chaque pays, enfin derrière chaque pays, quoi. Enfin voilà.
Est-ce que vous voulez continuer ou on te fait une petite pause
Comme tu veux, moi ça va mieux depuis que le...
Ouais,
j'avais
fait une petite, erreur de micro. Je m'excuse, il y a eu 5-6 minutes pour les auditeurs et auditrices qui écoutaient, qui ont dû être un peu chiantes, mais là c'est revenu à la normale. Il nous reste encore un petit peu de temps et il y a plein de sujets. En fait, moi j'avais envie de vous lancer sur un sujet... On continue, hein, voilà. Puisque quand même, tout cet appel à la guerre, ce retour de la brutalité de l'oligarchie, parce que voilà, c'est l'oligarchie là qui nous domine, qui nous gouverne depuis des décennies maintenant, cache quand même, vient dissimuler des enjeux vitaux, comme ceux de l'écologie, on l'a évoqué, et vient cacher quand même que depuis des décennies, on a détruit les services publics, par exemple. On a détruit tout ce qui pouvait rendre à peu près vivable une société, la sécurité sociale, qui sont pas jamais tombées du ciel, hein, qui sont pas, qui n'ont pas été accordées par, par nos dirigeants bienveillants, hein, qui ont été arrachés par la lutte, souvent. Il y a ça, en fait, derrière, dans le paysage. Il y a une politique libérale complètement débridée, qui continue. Et là-dessus, je faire la leçon à Trump, les Macron et les autres sont quand même assez mal placés, quoi. C'est compliqué. Il y a quand même une montée du fascisme assez hallucinante. Il y a quand même ce qui vient de passer depuis 2 ans au Moyen-Orient avec un discours où on va criminaliser les adversaires politiques. Voilà, on criminalise la contestation, c'est ce qui s'est passé là sur cette histoire des gens qui soutiennent la Palestine et qui vont commencer à critiquer Israël, paf, on les criminalise. C'est quand même dingue. Donc moi, je voulais votre réaction aussi sur ces enjeux-là, sur ces problèmes-là.
Oui, alors j'ai envie de revenir sur l'élection de Javier Milei en Argentine, qui, je pense, a donné le maître mot de ce qui se passe maintenant. En fait, lui, il est arrivé vraiment avec la tronçonneuse. Et je pense que la tronçonneuse s'est emparée de l'esprit de tous les capitalistes et de tous les politiciens qui sont au service du capitalisme. Et donc là, ça a été décliné donc récemment par Elon Musk, qui donc est arrivé au Dodge, au service de l'efficacité gouvernementale aux États-Unis, qui sabre d'une force phénoménal dans tous les services publics américains. Enfin, c'est un carnage. Et je sais que, et donc nous savons qu'en France aussi, beaucoup de gens regardent ça d'un œil vraiment attendri, émerveillé, en se disant c'est ça qu'il faut faire pour rétablir les finances publiques. Parce que c'est vrai qu'il y a une dette considérable en France. Donc voilà, ce serait une solution aussi de sabrer parmi tous ces budgets sociaux qui, franchement, c'est bon quoi. Donc c'est ça. Et parallèlement à ça, effectivement, il y a le secteur de la défense où là, tout le monde, beaucoup de gens voient dans le secteur de la défense une industrie, parce que c'est aussi une industrie. Ah et oui. En France, on est fort. Nous sommes le deuxième exportateur mondial d'armement.
J'allais le dire.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que on a Naval Group, on a Safran, on a Thales, enfin voilà. On a quand même des grosses pépites et tout ça. Donc il y a beaucoup d'investissements qui sont fléchés là, et de plus en plus depuis la loi de programmation militaire qui accordait, 413 milliards d'euros sur 7 ans, je crois que c'est ça. 413 milliards d'euros sur... c'est considérable. Donc là, moi, je regarde, je les écoute beaucoup, du coup, et je vois comment les collusions, là, je voyais récemment, là, il y a peut-être un ou deux mois, à l'Assemblée nationale, il y avait une conférence de tous ces maîtres de l'armement. Donc, on retrouve des gens de Thales, des gens de la DGA. Donc, la DGA, c'est la Direction Générale de l'Armement. C'est celle qui est chargée au sein du ministère des Armées de passer les commandes. Donc, c'est vraiment la chemise ouvrière entre les industriels de l'armement et le ministère de l'Armement. Et là, dans une de ces conférences, était invité Chesnay Girard. Loïc Chesnay Girard.
Le président du conseil
régional. Voilà. Et qui donc disait que lui, il faisait partie des... qu'il était peut-être même la seule région de France à avoir signé un partenariat pour une stratégie économique au service de l'armement. Parce qu'il disait, et ce qui est vrai, c'est qu'en Bretagne, nous avons beaucoup de fleurons de l'armement. Et à Brest, nous sommes bien placés, très très bien placés. Le premier employeur à Brest, c'est l'armement. Voilà. Que ce soit des militaires ou des entreprises privées qui, avant les années 90, c'était l'État. Mais on a aussi privatisé ça. Donc là, voilà. Bon, bref, je m'égare, mais donc c'est vraiment assumé. Et c'est une manière aussi de faire valoir l'économie. Donc l'économie au service de la mort, parce que c'est quoi fabriquer des armes? C'est la mort, en fait.
J'en profite pour en dire là-dessus. Il y a Disclose qui vient de sortir un article sur Thales qui fournit des composants pour fabriquer des drones qui servent à tuer des Palestiniens depuis au moins 2018. Donc Thales est implanté à Brest. comme Naval Group, tu l'as dit peut-être, et d'autres entreprises, donc l'Arsenal de Brest, bon, c'est connu. Moi, il y a un truc que je trouve assez inquiétant, c'est que dans les manifestations pour la Palestine, il y a très peu de, déjà de monde, d'une manière générale, mais la classe ouvrière et ces organisations comme les syndicats sont peu mobilisées. Là, Thalès, il y avait des grèves contre, pour les salaires. Mais par contre, avoir une vraie, impact, avoir un vrai impact politique sur ce que je viens de dire par rapport à quoi servent leurs armes et tout ça, il se passe très peu de choses. Même les directions syndicales, d'une manière générale, en fait, sont très peu présents là-dessus. Et je prends l'exemple de la Fonderie de Bretagne aussi à Caudan. Donc, ils étaient en liquidation judiciaire. Donc, du coup, tu avais la CGT qui faisait une alliance avec les syndicats de la Fonderie de Bretagne, leur direction et le MEDEF local pour demander à Macron, s'il vous plaît, demander à Renault de continuer à assurer les commandes à la Fonderie de Bretagne. Donc, Renault, c'était vraiment le premier... donneur d'ordre pour les commandes à la Fonderie de Bretagne. Et donc là, ils vont produire des obus, donc ils vont produire pour la guerre, et le syndicaliste CGT local n'y voyait pas trop rien à redire, parce que vous comprenez, les emplois, en gros, ils vont pouvoir conserver les emplois, même s'ils vont perdre des gens pour les reprendre derrière, mais en gros, il va y avoir un équilibre en nombre d'emplois et tout, quoi. Et donc, ça, vraiment, c'est un tournant, en fait, où la gauche politique et syndicale, on va voir si elle va être à hauteur de l'enjeu. Et on voit déjà, par exemple, les écologistes qui parlent d'écologie de guerre, ce genre de choses. Ou certains qui disent, il faut que juste qu'on continue à armer, mais prenez pas trop dans les budgets sociaux, quoi. Alors qu'on voit que c'est toujours lié. Ils prennent dans les budgets partout. En Angleterre, pareil. Hein, Starmer, là, il va faire ça. Enfin, donc voilà, je voulais dire ça. Et vu qu'on parlait de la Palestine, je suis obligé de le dire aussi que notre porte-parole, nous, à Révolution Permanente, Anas Kazim, il va passer en procès le 18 juin pour des tweets. Et c'est même pas des tweets où il parle à résistance ou ce genre de choses, parce que tu parles le mot résistance en parlant de la Palestine, tu peux être accusé d'apologie du terrorisme. Donc il va passer pour apologie du terrorisme, je crois, pour un tweet en gros qui dit Van der Leyen soutient les bouchers ou un truc comme ça, quoi. C'est pas le cas de Anas Kazib ou de Révolution Permanente qui est important là-dedans, c'est que il y a une criminalisation très puissante. Rima Hassan, Mathilde Panot avaient été convoqués, Jean-Paul Lescaut de la CGT dans le Nord, pareil, pour un tract. Et donc, il y a eu vraiment un saut répressif autoritaire et une pente très inquiétante. Et en fait, nous, l'analyse qu'on fait quand même aussi, c'est que si vous voulez, il y a un continuum entre une extrême droite pure et on va dire Macron, les libéraux et tout ça. Et certains parlent même de libéraux autoritaires pour qualifier par exemple des macronistes. Mais à mesure en fait que le consentement, sa base sociale s'affaiblit, il se fait de plus autoritaire, l'État se fait de plus en plus autoritaire. Et avec cette marche à la guerre, ces appels à l'Union nationale, ça ne va pas aller en s'arrangeant, parce que tu pourras jouer sur les affects chauvins nationalistes pour dire l'ennemi de l'extérieur, mais aussi l'ennemi de l'intérieur, qui ne fait pas partie du corps national. Et ça peut aller jusqu'aux gauchistes. Ça peut être... certains ont déjà commencé, d'ailleurs, même par rapport à LFI, en gros...
ça a déjà existé dans l'histoire, de toute façon. Voilà, de parler... Cette création d'ennemis intérieurs...
Parler d'anti-France. Enfin, certains ont commencé, là, sur LFI, à dire l'anti-France, machin et tout. Et on va se retrouver dans des situations où nous, on va être à contre-courant, en gros, à dénoncer cette marche à la guerre, cette mutualisation, et le fait qu'on ne veuille pas que les prolétaires de chaque pays se foutent sur la gueule, mais que, en gros, l'ennemi principal est dans notre pays, comme disait Karl Liebknecht à l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc voilà. Et là, par rapport à la Palestine, je voulais dire aussi que c'est évidemment c'est tragique. Mais c'est pas que ça. C'est pour politiser la chose, c'est quand même un nœud, un centre de rivalité interimpérialiste aussi, géopolitique, économique, très importante, que le Moyen-Orient. Et donc, avec Israël comme tête de pont de l'impérialisme américain depuis la création d'Israël. Et voilà, enfin bon, tout ça vient de l'histoire coloniale. On va pas. On va aller vite là-dessus. Mais tout
on ça, pourra tout le ça développer pour, à une autre occasion. Pour, tout, mais...
je dis ça parce qu'à Brest, il y a une manière de mobiliser sur la Palestine, souvent, qui est très, de manière très humanitariste, très peu politique. Et je pense que voilà, les gens ont besoin de politique, dans le bon sens du terme, c'est de monter en généralité, d'être des vrais sujets politiques, acteurs de leur émancipation, de leur militantisme, etc. Et pas juste des gens qui viennent écouter passivement, en fait, tous les 15 jours. Parce que c'est, voilà, y aurait à mobiliser beaucoup plus dans les facs, etc. Quoi. Et puis dans la classe ouvrière, il y a des dockers en Grèce qui ont pu bloquer des armes... pour Israël, voilà. Bon, à Brest, il ne se passe pas grand-chose, alors que c'est une ville militaire et qu'on a des dockers aussi. Mais voilà. C'est...
Bah, après, c'est des sujets très compliqués, mais comme je suis entièrement d'accord avec toi, qu'il faut se réapproprier de manière critique, politique, l'éducation populaire, en fait. Hein, c'est comme ça que la classe ouvrière s'est forgée une conscience dans l'histoire aussi, en se mettant au travail. Il nous reste à peu près 10 minutes, je dirais. Moi, je voudrais, pour conclure, parce que quand même, le tableau est quand même très inquiétant aujourd'hui. Globalement, l'optimisme, c'est difficile de rester optimiste vu l'évolution des choses. Pour aller vers du positif, comment faire ? Badiou qu'on a écouté au tout début, on va réécouter un petit truc pour la fin. Et voilà, lui, il dit, j'ai déjà dit, lui, il parle de communisme en fait. C'est l'échec du communisme qui fait que là, peut-être, on en arrive à un point presque sans limite du capitalisme le plus pur dans son essence, quoi, ultralibéral. On écoute des petits propos de Badiou et ça pourra nous amener à conclure tranquillement cette émission avec essayer de dégager, comment dire, un projet, un chemin d'horizon plus optimiste, puisque l'histoire n'est jamais finie. Hein. L'histoire, c'est les êtres humains qui la font. Hein. Il n'y a pas de loi transcendantale. Donc voilà. On écoute Badiou.
Je pensais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à Phèdre, de Racine. Quand Phèdre dit, au moment où elle doit avouer son amour à ses propres yeux, qui est un amour criminel, elle doit avouer les raisons de son amour criminel, elle dit, mon mal vient de plus loin. Et je pense qu'il faut penser comme ça, notre mal vient de plus loin que l'immigration, que l'islam, que le Moyen-Orient dévasté, que l'Afrique soumise au pillage. Notre mal vient de l'échec historique du communisme. C'est de là qu'il vient notre mal. Et donc il vient de loin, en effet. Par communisme, j'entends simplement le nom historique, le nom qui a été donné à une pensée stratégique disjointe de la structure capitaliste hégémonique.
Voilà, j'ai remis le micro. Donc, il dit une chose assez simple. Il y a le triomphe d'un capitalisme débridé, parce qu'en face, il n'y a plus rien. Et du coup, c'est ça qui s'est passé aussi dans l'histoire, là.
Oui, c'est un petit peu comme si c'était la victoire du TINA, du There is no alternative, en fait, en quelque sorte. Et que finalement... Thatcher, Reagan, voilà, c'est le fin mot de l'histoire, quoi. Un petit peu de ça.
Même par rapport à ce que tu disais avant, et pour lutter contre le désespoir, moi je pense que voilà, nous on propose une révolution permanente, de construire une organisation révolutionnaire. La révolution, on la fera sûrement pas tout seul. Il y aura d'autres organisations, il y aura des fusions, il y aura des alliances, il y aura plein de choses. Il y aura de l'auto-organisation, il y aura des assemblées, voilà. Et que du coup, voilà, ouais, c'est de aussi de former des militants, comme tu disais, toi tu parlais d'éducation populaire, mais de former des gens qui ont au marxisme, c'est-à-dire de pouvoir analyser le réel de manière matérialiste pour pouvoir le transformer. créer des vraies organisations, pas attendre la révolution pour créer des organisations, mais le faire bien en amont. C'est pour ça qu'on fait des assemblées aussi ouvertes, des réunions publiques là, comme celles dont on parlait. Et que du coup, voilà, sur par rapport au communisme, oui, bon, Badiou, il donne là une définition très 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 générique,
très large.
Nous,
ouais.
Nous, on parle en gros d'une société où on sort de l'exploitation et des oppressions, même si t'arrives au communisme, c'est-à-dire pas, enfin voilà, c'est un mouvement, c'est-à-dire tu vas pas arriver comme ça d'un coup, comme ça, c'est toujours un processus, un développement. Et pour revenir aussi à tout ce que tu as dit, même au début de l'émission, et même à Trotsky, qui lui-même avait critiqué le fait qu'à un moment, les bolcheviks aient rompu le fait qu'il y ait le pluripartisme dans les soviets. Nous, on pense qu'il faut qu'il y ait des assemblées. Donc là, un peu en réponse à la 5e République hyper autoritaire, bonapartiste, nous, du coup, on proposait comme mesure transitoire pour parler avec l'état de conscience des masses qui sont pas encore en mode des soviets partout, voilà, et tout ça. On propose en fait une assemblée unique sur le modèle un peu de la Commune de Paris, où Marx disait c'était un corps législatif et exécutif à la fois, et en fait de supprimer des institutions réactionnaires comme le Sénat ou le Conseil constitutionnel. Et aussi la figure présidentielle, et comme pour la Commune de Paris, des élus révocables pour 2 ans, payés à peu près au salaire médian, ou enfin voilà. Et ça, c'est pour comme mesure transitoire, ça, par les méthodes de la lutte des classes, c'est-à-dire qui peuvent être aussi, et on l'espère, être portées de plus en plus dans le mouvement ouvrier. Et quand on propose une assemblée unique comme ça, c'est sur la base aussi d'assemblées locales qui pourraient élire des élus. Mais sans perdre de vue la perspective stratégique du communisme, l'expropriation de la bourgeoisie, voilà. Et comme je l'ai dit au tout début, écologique, avec en fonction des besoins, voilà, sortie de l'exploitation et des oppressions. Et donc, on va parler de tout ça un peu jeudi. Donc, je redonne le rendez-vous.
Redonne le rendez-vous.
Donc, on a appelé ça 5e République, nationalisme, marche à la guerre, austérité, comment faire face. Donc c'est Assemblée ouverte de révolution permanente, jeudi 3 avril à 20h30 au patronage laïque Guérin. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Donc il y a une première partie où on fait un petit topo un peu comme on a fait ce soir quoi, sur ces parties-là. Et après il y a une discussion. Et après, on l'espère aussi, pourquoi pas, s'organiser de manière pratique. C'est-à-dire, bah, je sais pas, nous en ce moment, on lance une grande campagne contre la militarisation et la 5e République. Donc pourquoi pas organiser des collages, des tractages, essayer de faire gonfler un groupe de manière générale, qu'il soit à révolution permanente ou pas. Hein. Nous, en fait, notre ligne de militantisme, c'est des cercles concentriques, il y a des sympathisants actifs, t'as des militants stricto sensu à révolution permanente. Mais l'important, c'est quand même de se préparer, parce que les temps vont être de plus en plus durs. Et pour pas tomber dans le désespoir, voilà, moi je pense que c'est de voir les choses sur un temps long, comme disait Badiou aussi, et de se dire que ça sert à rien de courir dans la rue en mode activiste, en mode « ah, faut faire un truc », mais enfin vraiment de se dire on s'organise sur le temps long. Il faut qu'on construise des organisations solides, puissantes, qui puissent intervenir dans la situation de manière concrète, efficace, quand il y aura une lutte des classes qui sera exacerbée. Ça ne manquera pas d'arriver.
Oui. Eh bien, je vous remercie. On va s'arrêter là. Merci encore. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Voilà. Il y a cet espace de Radio U que je remercie aussi pour ça. Pour pouvoir organiser des émissions comme on veut. On se quitte, donc rendez-vous avec Révolution Permanente pour ceux qui peuvent, jeudi qui vient, là, au patronage laïque de Guérin. On se quitte avec une petite musique, Esperanza la Aranesa, c'est une vieille chanson révolutionnaire espagnole, c'est André Mainviel et Marc Perron là, qui vont la chanter. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Alegría, campesina. camaille. Hey, prenez-le pour tout bout, cap à gauche, cap à droite. Prenez-le pour tout bout, sin vergogne qu'à l'endroit. Dans les nids, un joc est à quatre secondes au pot. Quand tu quittes un joc, du constat de Santa Cruz. Prenez-le pour tout bout, penana, c'est cap à la gueule. Prenez-le pour tout bout, penana, où c'est un fondage. Nous caminons de la rue au Tarabun. Tout comme une au de la rue d'un calembon. Si elle a la plavezine, canto cumbia campesina. La rane est une hollandine, parle d'ascune alegria. Yo, minorita de Marraye, poco de nuez a raye, con las mitas a caballe, nadie le calla o barbaye. Y vamos, ven un día, 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 ven un día. Santa Cruz.